Chapitre 8. Non loin de ses appartements, dans un couloir paisible éclairé par des lampes à réflecteurs accrochées à intervalles réguliers le long des murs, Magda dut s'arrêter, car des soldats en armes lui barraient le chemin. Beaucoup de soldats. Ni de l'armée régulière, ni de la garde civile d'élite. Au début, de loin, la jeune femme avait redouté qu'il s'agisse des hommes du procureur. De par sa fonction, Lautin disposait d'une armée privée. Des hommes qui n'obéissaient qu'à lui et lui témoignaient une indéfectible loyauté. Au sein de la forteresse, personne d'autre ne bénéficiait d'un tel privilège. À ceux qui le jugeaient excessif, on rétorquait que la justice, pour rester indépendante, avait besoin de résister à toutes sortes de pressions. De plus, il lui fallait un bras armé pour faire exécuter les décisions qui ne plaisaient pas à tout le monde. Mais les soldats qui gardaient le couloir ne portaient pas l'uniforme vert des forces du procureur. Tous plus costauds les uns que les autres, ils se distinguaient par une taille hors du commun, un cou de taureau, des bras musclés et des pectoraux saillants. Sous leur épaisse cuirasse, ils portaient une tunique de maille à l'éclat terni par le passage du temps et l'exposition aux intempéries. Mais on aurait cherché en vain une tache de rouille sur ces équipements. En humant l'air, Magda reconnut l'odeur de la graisse que ces guerriers utilisaient pour protéger toutes les pièces métalliques de leur tenue. Mêlé à des senteurs de sueur rance, ce parfum n'avait rien de très agréable. À l'évidence, les uniformes de ces soldats n'étaient pas conçus pour éblouir les spectateurs d'un défilé. Il en allait de même pour l'impressionnante collection d'armes qu'ils arboraient. Des épées, des masses d'armes, des haches de guerre et des coups de clat destinés à tuer proprement et nettement, pas à briller au soleil pour épater la galerie. Ces guerriers n'étaient pas du genre à participer à des parades ni à faire de l'esbrouf dans les rues d'une paisible cité. C'étaient des tueurs, leur regard et leur rictus le criaient à la face du monde. Empêchée de retourner chez elle, Magda s'immobilisa, ne sachant que faire. En face d'elle, les guerriers la regardaient avec une curiosité amusée, mais aucun ne fit mine de venir à sa rencontre. Avant qu'elle eût pu leur demander ce qu'ils faisaient là, ou leur ordonner de s'écarter de son chemin, un homme sortit de derrière ce mur d'acier et de chair. Vêtu d'une tenue de voyage, ses longs cheveux blonds cascadant sur ses épaules, le gaillard était aussi grand que les guerriers et aussi lourdement armé. En revanche, frisant la quarantaine, il était un peu plus vieux que ces hommes. Sur son visage, les rides dues aux diverses expressions commençaient à prendre un caractère permanent et elles en disaient long sur son caractère d'acier. Alors qu'il se détachait des soldats, il retira ses gantelets et les glissa dans son ceinturon d'armes. Deux types encore plus grands et encore plus musclés que lui et que les autres soldats le suivaient comme son ombre. Comme leurs camarades et leurs chefs, ces anges gardiens avaient les cheveux blonds. Autour de leurs bras, juste au-dessus du coude, Magda remarqua des bracelets de métal hérissés de piques, des armes destinées aux corps à corps les plus brutaux et les plus vicieux. Sur la cuirasse qui épousait la forme de leurs formidables muscles au centre de leur poitrine, ces combattants d'élite arboraient un R stylisé, symbolisant la maison de leur seigneur et maître. Les précédant toujours très légèrement, le maître en question inclina brièvement la tête, puis riva sur Magda son regard hypnotique.
Dame Cyrus.
Magda étudia les yeux bleus des deux gardes placés derrière leur chef, puis elle soutint le regard également bleu de son visiteur.
Elle-même, oui.
Je suis Alric Rall,
annonça l'homme avant que son interlocutrice ait pu s'enquérir de son identité.
Venu de Dara?
Rall confirma d'un hochement de tête.
Mon mari m'a dit grand bien de vous.
Barakus était un grand homme, et plus encore que cela. La seule personne ici en qui j'avais confiance. Apprendre qu'il n'était plus de ce monde m'a affligé.
Pas autant que moi.
Sincèrement affecté, en tout cas en apparence, Alric Rall hocha de nouveau la tête, puis il désigna la porte de Magda derrière la haie de soldats.
Puis-je vous parler en privé?
Bien entendu, seigneur Rall,
répondit Magda. Aussitôt, les soldats s'écartèrent pour laisser passer leur chef, sa compagne et ses inévitables gardes du corps. Bien qu'elle n'eût jamais rencontré le seigneur Rall, Magda en avait assez souvent entendu parler. Par Barakus, bien sûr. Et selon ce qu'elle l'avait entendu dire à des conseillers, le maître de Dara n'était pas le genre d'homme à qui il fallait marcher sur les pieds. En le voyant, on se disait que ce n'était effectivement pas une bonne idée. En Aïdindril, pas mal de responsables politiques ne pensaient pas grand bien d'Alric Kral. Barakus ne partageait pas leur hostilité. Selon lui, même s'il était du genre direct, voire brutal, l'homme se révélait digne de confiance dès qu'on grattait un peu sous la surface. Alors que Magda avançait vers sa porte, les guerriers à l'expression fermée se répartirent dans le couloir afin d'y monter la garde.
« Seigneur Hall,
demanda la jeune femme par-dessus son épaule.
« Redoutez-vous d'avoir des problèmes dans la forteresse ?»«
D'après ce que j'ai vu, répondit le seigneur délibérément vague, cet endroit n'est pas plus sûr qu'un autre par les temps qui courent.
« Et qu'avez-vous vu, si j'ose demander ?»«
Trois de mes hommes sont morts depuis notre arrivée, pourtant récente. »
Magda s'arrêta net, se retourna et sila de surprise devant l'expression sinistre du seigneur Hall.
Mort ? Ici ? Comment est-ce arrivé ?
Alric Kral glissa un pouce dans son ceinturon.
Le premier a été retrouvé dans un couloir, le corps couvert de plaies. Le deuxième a succombé dans son sommeil sans raison apparente, et le troisième a fait une chute mortelle inexplicable du haut des remparts.
À un souffle près, Magda aurait pu subir le même sort que ce malheureux. À l'heure présente, elle se sentait encore désorientée, comme si elle ne parvenait pas à se réveiller d'un terrible cauchemar, et non comme si elle émergeait d'un simple moment de découragement et de faiblesse.
« Le premier homme s'est peut-être querellé avec des gens très violents, »
hasarda-t-elle.
« Les trois décès sont explicables si on essaie avec assez de conviction, »
lâcha Alric Kral. À l'évidence, il ne gobait aucune de ses explications. Dissimulant son trouble, Magda reprit son chemin et passa devant des soldats dont elle comprenait mieux désormais l'humeur plus que morose. À ses yeux, la forteresse était un sanctuaire et elle détestait penser qu'il puisse en aller autrement. Cela dit, Barakus lui-même avait enquêté sur des morts qui lui paraissaient suspectes. Pour finir, il avait perdu la vie dans le sanctuaire et elle était également passée près d'y mourir. À l'évidence, la fin de son mari n'était pas un simple suicide. Le message qu'elle avait rangé dans sa poche le disait assez clairement. Il fallait chercher les choses cachées derrière les choses. Considérant la population de la forteresse, la guerre en cours et les périlleuses expériences conduites par des sorciers, afin de créer des armes magiques efficaces contre les hordes d'envahisseurs de l'Ancien Monde, Magda ne s'étonnait pas vraiment que le taux de mortalité soit en hausse au sein du complexe. Les trois soldats du seigneur Hall n'étaient pas les seuls défunts inquiétants dont elle avait entendu parler. Cela dit, il arrivait parfois que des enfants en pleine santé meurent sans qu'il y ait anguille sous roche. En d'autres termes, les décès ne prouvaient pas que le mal était à l'œuvre dans la forteresse. Certaines personnes le pensaient, oubliant que la mort restait l'indissociable compagne de la vie. Une erreur de perspective, bien entendu. Magda déverrouilla la porte à deux battants et l'ouvrit pour laisser passer son invité. Quand ce fut fait, elle l'imita. Marchant sur ses talons, les deux gardes du corps entrèrent à leur tour et refermèrent aussitôt la porte, se campant de chaque côté, le torse bombé et les mains croisées dans le dos.
« Ne vouliez-vous pas parler en privé ?»
fit Magda en désignant les deux colosses blonds.
« Ce sont mes gardes personnels. En dépit des apparences, nous parlons en privé. »
« Un sorcier qui a besoin de deux gorilles ?»«
Dame Cyrus, la magie ne suffit pas à protéger un homme, dans certaines circonstances. » Votre mari a sûrement dû vous en informer un jour.
Que voulez-vous dire?
Au pays des aveugles, y voir est un avantage. Même quand tout le monde a de bons yeux, ça ne représente plus rien. Dans un environnement qui fourmille de sorciers, savoir contrôler la magie ne rend pas un homme invincible ni exceptionnel. Quand le pouvoir des autres peut neutraliser celui qu'on détient, il faut savoir s'appuyer sur d'autres défenses.
D'un simple geste de la main, Alric Kral embrasa la mèche d'une bonne partie des lampes de la pièce.
« Cela dit, avoir le don reste très utile. »
Rassuré par l'illumination soudaine, il avança dans la pièce, admirant dans les bibliothèques en noyer l'impressionnante collection de livres rares de Barakus. La main sur le pommeau en argent de sa dague, il se pencha pour mieux observer tel ou tel volume à travers les vitres, Pour lire certains titres, il plissa les yeux, histoire de mieux voir. En plus de ces considérations, déclara-t-il en se redressant, nous sommes tous faits de chair et de sang, et un banal couteau ouvrirait ma gorge aussi aisément qu'il trancherait la vôtre. Pour ça, point n'est besoin de magie.
Je vois ce que vous voulez dire.
Barakus n'exprimait pas les choses ainsi, mais l'idée générale y était. Un jour, il m'a dit que les profanes enviaient les détenteurs du don parce qu'ils croyaient à tort que la magie les protégerait et les aiderait à se couvrir de gloire dans les batailles. Selon mon mari, ces gens oubliaient ce qu'ils nommaient l'équilibre de la puissance ou encore de la terreur. Vos explications viennent de me permettre de comprendre pour de bon ce qu'il avait à l'esprit. Toujours fasciné par les livres, Alric Kral hocha distraitement la tête. « Oui, tout tient à cette affaire d'équilibre des forces. Au moment même où nous parlons, des sorciers très puissants, ici même et dans l'ancien monde, s'efforcent de créer des sortilèges et des armes qui donneront l'avantage à leur camp. Des deux côtés, on cherche à faire mieux en matière de destruction et d'horreur, avec l'espoir, bien entendu, de découvrir l'arme absolue. Si nous y arrivons les premiers, nous survivrons. Dans le cas contraire, nous serons au mieux réduits en esclavage et au pire rayés de la surface du monde. » Soudain, quelque peu angoissée, Magda sonda ses appartements déserts avec quelque appréhension.
« Comme vous vous en doutez, j'ai souvent entendu mon mari exprimer des inquiétudes de ce genre. »
Se détournant des livres, Alric Rall regarda son interlocutrice dans les yeux. « C'est pour ça que je suis ici. L'équilibre des pouvoirs n'est plus qu'un souvenir. La balance n'a pas penché en notre faveur, et nous sommes au bord de l'anéantissement. »